France Culture. François Chagnot.
Bonjour à tous. Ils reviennent chez eux au péril de leur vie. Des centaines d'habitants du Sud-Liban ont tenté de retrouver leur village occupé par l'armée israélienne qui n'hésite pas à leur tirer dessus. Le cessez-le-feu menacé également dans la bande de Gaza, Israël empêche toujours l'accès au nord de l'enclave malgré l'accord de trêve. Le Conseil de sécurité de l'ONU avance sa réunion d'urgence d'un jour face à la violence des combats dans l'est de la République démocratique du Congo. Une farce, voilà comment l'opposition biélorusse en exil qualifie les élections présidentielles qui ont lieu aujourd'hui sans aucun suspense. On en parlera avec notre invité. Et puis des crues déjà inédites dans la région de Rennes en Bretagne. La tempête Herminia déferle sur l'ouest de la France. Ils devaient retrouver leur village du Sud-Liban. Après des mois d'exil, des centaines de Libanais n'y ont trouvé que les balles de l'armée israélienne ce matin. Beyrouth fait état de 3 morts, dont un soldat et une quarantaine de blessés. Israël refuse en effet de se retirer de la zone au terme des 60 jours de cessez-le-feu. C'est pourtant ce qui était prévu dans l'accord passé avec le Liban. Bonjour William Delesseux.
Bonjour.
Vous êtes au nord d'Israël, où le pays empêche tout accès au sud Liban.
Oui, toute personne qui tenterait de franchir les positions israéliennes au Liban est considérée comme une cible. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne avait d'ailleurs indiqué que les civils n'étaient pas autorisés à se déplacer au sud Liban, en dépit de la fin de ce délai des 60 jours, vous l'avez dit, prévu par l'accord qui avait conduit à la trêve avec le Hezbollah et mis fin aux frappes israéliennes, frappes aériennes sur Beyrouth. 3 morts et 1 soldat libanais ont été tués par les tirs israéliens, affirme l'armée du Liban. Tel Aviv affirme qu'il s'agit de tirs de dispersion et que l'armée libanaise n'a pas suffisamment donné de garantie pour reprendre le contrôle du Sud-Liban face au Hezbollah, décapité, mais toujours résiduel. Des images de propagande ce matin de la milice chiite montrent des hommes rentrés dans une commune libanaise, le drapeau du Hezbollah à la main. Le premier ministre libanais Najib Mikati a appelé les parrains de l'accord de cesser le feu, dont les États-Unis et la France, à assumer leurs responsabilités et à contraindre l'ennemi israélien de se retirer des territoires qui l'occupent. Fin de citation. L'accord avait été signé, on le rappelle, du temps de l'administration Biden.
Et à Gaza, William, même stratégie, Israël bloque les habitants qui souhaiteraient rejoindre le nord de l'enclave.
Oui, d'après Israël, le Hamas n'a pas respecté les conditions de l'autre accord de cessez-le-feu, l'accord à Gaza, en libérant les 4 jeunes militaires otages hier, alors que les Israéliens réclamaient et s'attendaient à la libération d'Arbel Yehoud. C'est une femme civile, ainsi l'accord est violée et l'armée ne laissera passer personne au nord de Gaza tant qu'Arbel Yehoud ne sera pas libérée. Le Hamas affirme que l'armée israélienne utilise le statut de cet otage comme prétexte pour empêcher les Palestiniens d'atteindre leur domicile du nord et les empêcher, c'est violer également l'accord, dit le groupe armé.
Merci William Delesseux en direct du nord d'Israël grâce aux moyens techniques de Marc Garvenès. L'ONU admet que les conditions pour le retour des habitants dans les communes frontalières au sud Liban donc ne sont pas encore réunies. Lui veut nettoyer la bande de Gaza de toute présence palestinienne. Donald Trump affirme ce matin vouloir expulser 1,5 million de Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie pour, je cite, faire le ménage dans l'enclave qu'il qualifie de site de démolition après 15 mois de guerre. Le président américain qui donne d'ailleurs les moyens à son allié israélien de poursuivre ces destructions en débloquant une livraison de bombes parmi les plus puissantes de l'arsenal américain. Elles avaient été bloquées, cette livraison avait été bloquée par Joe Biden. Le risque d'une nouvelle guerre régionale en République démocratique du Congo. Ces derniers jours, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda voisin, encerclent la grande ville de Goma, à l'est du pays. Les troupes congolaises et les casques bleus s'efforcent de repousser cette offensive. Mais les combats sont très intenses dans cette région, également très riche en minerais du Nord Kivu. La vie de centaines de milliers de personnes est menacée. Alors, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence cet après-midi, Dominique André.
La réunion était initialement prévue demain, mais l'ONU s'inquiète d'un risque d'embrasement régional. Soutenu par le Rwanda, les rebelles du M23, groupe armé hostile au gouvernement congolais, sont maintenant aux portes de Goma, la capitale régionale de cette province du Nord Kivu. De puissantes détonations ont secoué tôt ce matin Goma, où vivent 1 million de personnes et autant de populations déplacées. L'insurrection du groupe M23 dure depuis 3 ans, mais les combats secouent depuis plus de 30 ans cette région du Kivu, riche en ressources naturelles et qui possède l'un des principaux gisements mondiaux de métaux rares, indispensables à la fabrication des smartphones ou ordinateurs. La RDC accuse le Rwanda de vouloir mettre la main sur ces richesses de l'Est congolais. La MONUSCO, mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, est engagée dans ses combats contre les rebelles du M23. L'ONU a commencé à évacuer une partie de son personnel de Goma. Avant-hier, la France, les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni avaient appelé leurs ressortissants à quitter la ville.
Et au moins 6 millions de personnes sont mortes dans ce conflit qui dure depuis 1998. Plus de 400 000 personnes ont dû fuir les combats rien que depuis le début du mois de janvier. En Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol a été inculpé pour insurrection. Il devrait donc rester en détention. Il lui est reproché d'avoir tenté d'instaurer la loi martiale le 3 décembre dernier. Il fait l'objet depuis d'une procédure de destitution. Demain auront lieu les cérémonies commémoratives du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Le 27 janvier 1945, les soldats soviétiques de l'armée rouge découvrent le camp où plus d'un million de juifs a été exterminé. Les yeux du monde entier seront donc tournés vers ce lieu devenu symbole de la barbarie nazie. Mais cette ville, dont le nom polonais est Oświęcim, est aussi une ville dans laquelle la communauté juive représentait plus de la moitié de la population avant la Seconde Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, à peine quelques kilomètres du camp, le centre juif d'Auschwitz veut mettre en valeur la riche histoire des juifs dans la ville, Sarah Mansoura.
À moins de 2 kilomètres du camp, un bâtiment modeste, la toute dernière des 20 synagogues d'Oświęcim, un lieu de prière pour les juifs de passage, car ici, pas de rabbin et plus de communauté juive.
Avant la guerre, il y avait 14 000 habitants ici, dont plus de 8 000 juifs, soit 60% de la population.
Seuls 180 ont survécu, rappelle Arthur Schindler, historien résident du site.
Pendant longtemps, surtout pendant l'époque communiste, l'histoire juive était oubliée, comme un tabou, et bien sûr, éclipsée par Auschwitz.
Alors depuis 25 ans, le musée met en valeur des milliers de photos, lettres, documents sonores. Avraham, venu du New Jersey pour se recueillir, apprécie.
On pleure ces communautés, on pleure ces gens. C'est important que des gens ici préservent cette histoire. C'est un peu comme lutter contre ce qu'il s'est passé.
Le dernier résident juif rescapé d'Auschwitz est mort en 2000. Longtemps, personne ne lui a succédé. Mais depuis plus d'un an, Hila Weissgut, israélienne et descendante d'une rescapée d'Auschwitz, fait renaître cette présence.
Auschwitz, c'était il y a 80 ans. Auschwitz existe depuis 800 ans. Pour moi, vivre ici, c'est affirmer, oui, ils ont essayé d'exterminer une partie de la race humaine, mais nous sommes encore ici.
Ici, dit-elle, pour préserver l'histoire, mais aussi l'avenir.
Sarah Mansoura. Une démocratie brutale. C'est en prononçant cet oxymore que le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko a glissé son bulletin dans l'urne ce matin. L'autocrate au pouvoir depuis 1994 brigue un 7e mandat et comme à chaque fois, à chaque élection, l'issue ne fait aucun doute. Pour en parler, nous sommes en ligne avec la maîtresse de conférence en études slaves à l'université Bordeaux-Montaigne, Olga Gilles-Belova. Bonjour madame.
Bonjour messieurs.
Alors il y a 4 autres candidats dans cette élection à part Alexandre Loukachenko. Ils le soutiennent publiquement. Bon, vous le confirmez, il n'y a aucun suspense dans cette élection.
Oui, d'ailleurs, même le thème d'élection, il n'est pas réellement approprié. Il s'agit d'une véritable reconduction d'Alexandre Loukachenko sur son poste présidentiel parce qu'il n'y a strictement aucune compétition.
Et dans quel état se trouve l'opposition? Alors elle est en exil, notamment suite à la répression après les manifestations de 2020, les dernières élections présidentielles. Cette répression, elle avait été particulièrement brutale. Donc dans quel état se trouve cette opposition aujourd'hui?
Donc aujourd'hui, il y a une partie quand même de l'opposition qui est dans le pays, parce qu'il y a encore des prisonniers politiques et certains leaders de l'opposition qui ont été emprisonnés en 2020 qui sont toujours en prison. Et puis vous avez... entre 300 000 et 500 000 de Biélorusses qui ont quitté le pays suite à cette vague de répression qui s'est abattue à l'automne de 2020. Et cette opposition est beaucoup plus visible. Elle a évidemment beaucoup plus de ressources pour agir, notamment une partie qui est réunie autour de Svetlana Tikhanovskaya à Vilnius, mais il y a également une très forte présence aussi des opposants en Varsovie, hein, notamment en Pologne. Donc en revanche, cette opposition en exil aujourd'hui n'a aucun moyen pour agir à l'intérieur du pays.
Vous avez évoqué Svetlana Tikhanovskaya. Quelles sont les autres figures qui incarnent cet espoir biélorusse? Il y a également des figures de la société civile, des entrepreneurs notamment.
Oui, bien sûr. Il y a par exemple, Pavel Latouchko. On peut aussi citer l'organisation BIPOL qui a été assez active. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui peut-être probablement moins médiatisées, moins connues, mais qui sont toujours impliquées. Je pense qu'il y a beaucoup de Biélorusses en exil qui rêvent de changement. Après, le fait qu'aujourd'hui, il est impossible de manifester une opposition à l'intérieur du pays ne signifie pas que la majorité de Biélorusses soutiennent Loukachenko. C'est juste qu'ils n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'exprimer leur mécontentement. Ils ne peuvent pas prendre le risque de répression, de poursuite. Mais ça ne signifie pas que le pays aujourd'hui est complètement entre les mains. En tout cas, l'esprit des Biélorusses sont entièrement soumis à la volonté de
Vous avez évoqué, évidemment, cette répression, ces prisonniers politiques qu'on compte par milliers dans les prisons biélorusses. Dans quelles conditions matérielles vivent aujourd'hui les Biélorusses au sein du pays, étant donné qu'il est évidemment sujet à des sanctions internationales, notamment depuis les élections de 2020 ?
La situation, globalement, ne s'est pas beaucoup dégradée parce qu'il y a un très fort soutien de la Russie qui permet en partie de compenser l'effet de ces sanctions. Donc, il y a eu une légère détérioration, mais on ne peut pas parler non plus d'une crise économique majeure. Et donc, malheureusement, de ce point de vue, les sanctions n'ont pas eu beaucoup d'impact.
Et puis, vous l'évoquez évidemment, ce lien avec la Russie, cette vassalisation. Quel est le lien, en fait, aujourd'hui entre Vladimir Poutine et Loukachenko? Est-ce que l'un dépend de l'autre? Olga Gilbelova, est-ce que vous êtes toujours avec nous?
Allô?
Oui, est-ce que vous m'entendez, Olga Gilbelova?
Oui, oui. On a perdu la connexion.
Oui, la connexion va revenir. Je vous posais cette question.
Je vous rappelle, moi, dans 5 minutes,
oui,
d'accord?
Merci.
J'entends que vous avez eu une autre communication. Est-ce que vous êtes avec moi?
Oui, je suis avec vous. Je suis désolée, j'ai mis un PD pourtant. Ouais.
Pas de problème. Non, je vous posais cette question, en effet, que vous abordiez ce lien entre Vladimir Poutine, Alexandre Loukachenko, en fait la Russie de Poutine et la Biélorussie de Loukachenko. Quels sont les liens? Quelles sont leurs interdépendances aujourd'hui?
Aujourd'hui, il s'agit d'une très forte dépendance qui s'est beaucoup d'ailleurs renforcée depuis 2020 et en particulier depuis 2022. On pourrait parler pratiquement de la perte de stratégique, de capacité de choisir les grandes orientations pour le régime d'Alexandre Loukachenko, même si on a aujourd'hui, une fois moins, encore d'indépendance politique et symbolique, mais dans les faits, il y a une très forte dépendance économique et géostratégique de la part de la Russie.
C'est pour ça qu'on emploie souvent le terme de vassalisation, ou en tout cas de vente de la souveraineté de la Biélorussie pour des intérêts politiques évidents dont profite Alexandre Loukachenko. Merci Olga Gilbelova, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en études slaves à l'université Bordeaux-Montaigne. Et merci à Loïs Guérin pour la préparation de cet entretien. L'Ille-et-Vilaine subit les inondations les plus intenses depuis un demi-siècle. Météo Bretagne annonce l'équivalent de 15 jours de pluie en 24 heures dans certains secteurs. À Rennes, des centaines d'habitants et une clinique ont dû être évacués. Baptiste Roux, vous avez trouvé des habitants qui ont décidé de rester chez eux.
Oui, dans la rue Jean-Claude Camor ce matin, plusieurs riverains ont eu la surprise de voir des dizaines de centimètres d'eau sur la chaussée. Hier soir, la rue était encore globalement épargnée quand la police est passée vers 23h pour demander d'évacuer. Sophie était seule chez elle avec Aloïs, son garçon de 3 ans.
Moi, j'avais mon fils qui dormait à l'étage. Je me suis dit, je reste là pour la nuit. Même s'il n'y a pas de chauffage, c'est pas grave, quoi. Il est mieux dans son lit que dans un gymnase, quoi.
Sa maison est surélevée par rapport au niveau de la rue, de quoi être un peu protégée, mais Sophie avait quand même prévu le coup hier soir pour mettre en sécurité certains de ses meubles.
J'ai mes voisins qui m'ont aidé à monter les machines dans le garage et puis ça a inondé le garage.
Quelques centimètres d'eau dans son garage, certains meubles en ont même gardé les traces. Le niveau de l'eau a un peu baissé ce matin, mais Sophie reste prudente et se tient prête à évacuer, notamment à cause des pluies importantes annoncées cet après-midi.
Mon sac est prêt. En effet, peut-être que je vais essayer de monter 2-3 trucs. Mais j'ai tellement de choses, je peux remonter la maison à l'étage.
Avec son mari, ils ont installé des sacs de sable devant les entrées pour bloquer l'eau et protéger au maximum leur maison. Le pic de la crue est attendu pour les prochaines heures.
Un reportage Baptiste Roux, ici Armorik. Ces inondations, c'est la conséquence de la tempête Herminia qui déferle sur l'ouest du pays. Météo France place 8 départements en vigilance orange. Le Calvados, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne et l'Orne pour risque de crue. Les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Rhône pour risque de vent violent. Le Morbihan rejoint à ces départements dès ce soir, mais cette fois-ci pour risque de fortes pluies et d'inondations. Ailleurs, éclairci sur la façade est cet après-midi, il fera entre 6 et 12 degrés sur la moitié nord, 9 et 16 au sud. Merci à Sam Bakiast et Nicolas Delmas pour la préparation et la réalisation de ce journal.